L'entrevue.
L'entrevue ?
L'entrevue ?
L'entre-quoi ?
L'entrevue. L'émission d'actualité locale sur Radio La.
3, 2, 1, 0.
Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans l'entrevue, l'émission qui tend le micro vers le pays de Dieulphie Bourdeau. Aujourd'hui, tri sélectif, recyclage et vivre ensemble, on s'intéresse à la collecte et au traitement des déchets sur le territoire. Une mission de service public qui nous concerne toutes et tous au quotidien et qui pose un certain nombre de questions. Que devient le contenu de nos poubelles? Sommes-nous de bons élèves en matière de tri? Et puis au fait, en fin de compte, ça sert à quoi de trier? Réponse dans cette émission avec nos invités qui font le tri entre les infos et les intox et nous parlent des enjeux d'aujourd'hui et de demain en matière de déchets. C'est parti! Philippe Bérard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes élu vice-président en charge de la gestion des déchets à la communauté de communes de Dieulphie Bourdeau. Vous êtes également maire de Montjoux. Aymeric Bernard, bonjour.
Bonjour.
Vous occupez le poste d'ambassadeur du tri au sein de cette même intercommunalité. Donc vous allez à la rencontre des habitants pour améliorer la qualité de la collecte. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce que vous faites exactement. J'avais envie de commencer par une question très simple, presque naïve. Ça sert à quoi de trier nos déchets, finalement ?
Je dirais que trier ces déchets, c'est avant tout pour éviter d'enfouir des déchets, que ce soit pour de la valorisation matière, pour du recyclage, ce qui permet aussi d'économiser de la ressource et pour éviter d'utiliser des espaces pour du stockage qui pourraient l'être pour des terres agricoles, par exemple.
Oui, tout à fait. L'objectif de trier, c'est de moins enfouir. Et en plus, en tant qu'élu et responsable d'un budget, responsable de l'argent des contribuables, c'est aussi maîtriser nos factures, maîtriser leur augmentation. Et on pourra sûrement en parler que plus on trie, moins on paye, contrairement à ce que certains peuvent penser.
Mmh. Il y a une spécificité sur le territoire, c'est ce système de redevance dite incitative qui est en place depuis 2021. Donc c'est l'utilisation des éco-badges, donc ces cartes de tri qui calculent notre volume de déchets ménagers. Peut-être en tant qu'élu, Philippe Bérard, quel bilan est-ce que vous tirez aujourd'hui de ce système de tarification ?
Bah écoutez, un très bon bilan qui est apparu très très vite, hein, puisque 2021, en effet, la redevance effective, mais avec l'année blanche qui avait commencé en 2020, et dès 2020, on était à moins 46% dès les premiers mois, et on continue toujours à baisser. On était parti de 220 kilos et aujourd'hui on est à 87 kilos. Et si on rajoute un petit peu les erreurs de tri dont Aymeric parlera, on est à 96 kilos par an par habitant. Donc c'est un super bon bilan.
96 kilos par an par habitant pour
d'ordures ménagères.
D'ordures
ménagères résiduelles, voilà. La poubelle grise qui part au trou.
Donc c'est. À l'échelle de la Drôme ou à l'échelle nationale, en comparaison, le pays de Dieulphie-Bourdeau est un bon élève en matière de tri ?
Oui, complètement. On est, donc nous, 96 kilos par habitant. Sur la moyenne du syndicat des Ports de Provence, notre syndicat de traitement, donc nos voisins proches, la moyenne est à 261 kilos. La moyenne drômoise à 239, au niveau régional c'est 222, au niveau national c'est 246. Donc on voit qu'on est largement en dessous avec un outil qui fonctionne.
C'est impressionnant comme chiffre, comme réduction. Et ça, ce chiffre-là, il a énormément évolué depuis 2 ans, depuis la mise en place de la redevance incitative.
En fait, il y a eu un superbe investissement. De la très grande majorité des habitants, dès 2020, je vous dis, on a divisé quasiment par deux, et on continue de progresser chaque année. Alors évidemment, hein, c'est comme un sportif de haut niveau, quand quand on est débutant, on fait une marge de progression très forte. Et puis, le sportif de haut niveau, après, il gagne quelques secondes, quelques dixièmes de seconde avec beaucoup de travail.
Mmh. Et il y a encore du travail, j'imagine. Aymeric Bernard, vous êtes entre guillemets un peu là pour ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être votre poste au sein de la communauté de communes?
Oui, mon titre, c'est ambassadeur du tri. Donc classiquement, un ambassadeur du tri travaille sur la quantité du tri, encourager chaque habitant à mettre un maximum de déchets qui peut se recycler dans la bonne poubelle. Moi, je travaille sur ça, mais plus avant tout sur la qualité du tri, en particulier ce qui va dans la poubelle emballage et papier. Essayer de communiquer un maximum, de rencontrer les habitants pour, à terme, faire que dans la poubelle jaune, emballage et papier, on n'y trouve que des emballages vides et du papier, et que tous les autres déchets puissent être mis au bon endroit. Et c'est un travail avec le service, avec les élus, pour aussi proposer aux habitants un maximum de solutions qui soient accessibles pour chaque type de déchets, quoi.
Mmh. Typiquement, les erreurs que vous repérez, les erreurs de tri, ça peut être au niveau de la poubelle emballage, mettre les mauvais, penser que des déchets ménagers sont en fait des emballages, s'emmêler un peu les pinceaux,
oui,
là-dedans.
Tout à fait, je dirais qu'il y a une grande partie de ce qu'on appelle les refus de tri, c'est-à-dire des déchets entre guillemets non conformes qu'on trouve dans les emballages et le papier, des déchets autres que ces deux-là dans les conteneurs jaunes. La plupart, donc, c'est des erreurs d'incompréhension peut-être par rapport aux consignes. Donc ça va être parfois des emballages pleins, ça va être des objets en plastique, ça va être peut-être des emballages en verre. Et puis après, certains déchets, peut-être les gens se disent, on le met dans le bac de tri, ça sera retrié derrière, comme peut-être le textile, ce genre de déchets-là, de la vaisselle cassée, des casseroles, ce genre de choses. Et donc c'est pour ça que j'accompagne un maximum de personnes pour essayer d'orienter vers les meilleures solutions pour ces déchets.
Et puis il ne faut pas se mentir aussi, on a quand même quelques rares tricheurs, voilà aussi, qui choisissent le forfait 1 et puis qui ne vont pas mettre leur poubelle dans la poubelle pour être dans leur forfait, et puis qui vont mettre leur poubelle dans les emballages. Et voilà, c'est quelques plaisanteries nous coûtent cher, puisque c'est lourd, une poubelle avec du compost, avec du verre dedans, une poubelle qui n'est pas triée, c'est lourd. Et du coup ça nous pénalise fortement, hein, puisque voilà, ça, on l'a estimé à 120 000 euros par an. D'où l'embauche d'Emeric en disant « vaut mieux qu'on finance un poste plutôt qu'on emmène cet argent qui va partir chez Veolia, en fait. »
On pointe parfois du doigt les touristes, par exemple, en période estivale. Finalement, c'est pas vraiment ça, c'est refus de tri, entre guillemets.
Non, alors c'est vrai qu'on l'a analysé déjà depuis 2016, où on avait fait des analyses de poubelles, qu'on appelle des caractérisations. Et puis, Aymeric continue à faire des caractérisations de colonnes d'emballage et de poubelles. Et on s'aperçoit que voilà, les touristes ont bon dos, parce qu'il n'y a pas plus de mauvais gestes en été. Il y a plus de quantité en été, mais proportionnellement, il n'y a vraiment pas plus de mauvais gestes. Et puis, quand on trouve parfois des enveloppes, les enveloppes, ce n'est pas des enveloppes qui viennent d'ailleurs. Les enveloppes, elles sont toujours du territoire.
Aymeric Bernard, quels sont vos conseils pour les habitants et les habitantes pour améliorer la qualité du tri? Typiquement, qu'est-ce que vous donnez comme conseil?
Je dirais avant tout, pas hésiter à se poser la question. Dès qu'on a un doute, pas hésiter à se tourner vers nous, c'est-à-dire le service gestion des déchets, la communauté de communes. On a un site internet qui regroupe énormément d'indications sur les consignes de tri, en essayant d'être exhaustif sur tous les déchets qu'on peut avoir au quotidien ou même occasionnel. Et puis voilà, moi je suis là depuis avril dernier et je suis vraiment aussi là pour répondre aux questions spécifiques que les gens peuvent se poser. Et voilà, c'est ça surtout, je dirais. Et puis, on distribue des petits guides du tri, on fait de l'affichage sur les conteneurs. Voilà, ça, essayer de passer les bonnes infos au bon endroit.
Mmh. Il y a les habitantes et les habitants, enfin les particuliers, mais il y a également les professionnels. Votre communication, entre guillemets, enfin, vous vous adressez également aux professionnels ou à l'utilisation de la déchetterie également, j'imagine.
Oui. Donc on a la particularité, peut-être un peu plus que d'autres territoires, à avoir historiquement toujours géré les déchets des professionnels, parce que les déchetteries professionnelles, les exutoires pour les professionnels sont loin, parce qu'on est dans un territoire qui est un petit peu reculé par rapport à Montélimar. Et historiquement, ça s'est toujours passé comme ça, sachant que le service public, dans la loi, c'est les déchets ménagers assimilés, donc c'est-à-dire ce qui s'assimile à un déchet ménager. Donc un déchet professionnel, soit en fonction de son type, soit en fonction de sa quantité. À partir d'une certaine quantité, c'est plus un déchet particulier. Donc on les gère quand même. Donc on communique auprès d'eux de la même manière. Et souvent, on discute avec eux parce qu'ils voudraient des ouvertures plus grandes pour que ce soit plus pratique pour eux. Ils voudraient des accès à la déchetterie plus souvent, etc. Des horaires plus larges. Et en même temps, on est calibré sur un service qui est calibré pour le particulier. Voilà, et donc il y a une adaptation à faire, il y a un juste milieu. Voilà, donc c'est des discussions régulières qu'on a avec les professionnels. Mais...
Quelles sont les autres... Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques du territoire en matière de déchets, de collecte et de traitement des déchets sur la communauté de communes de Dieulefit-Bordeaux?
Notre caractéristique... Qui nous différencie des autres. En tout cas, de nos voisins, on est un peu plus en avance aussi sur les biodéchets. Voilà, on a 60 sites de compostage partagé. Voilà, quand les autres collectivités démarrent tout juste avec 5 ou 6 sites. Donc on a eu cette avance là-dessus, ce qui nous a permis d'ailleurs en 2020, parce que le déploiement s'est fait un peu avant et s'est accéléré depuis 2020, ce qui nous a permis en 2020 de mettre la redevance incitative en place, parce qu'il y avait, toutes les possibilités pour pouvoir réduire sa poubelle.
Mmh. Est-ce que vous avez des chiffres spécifiques sur ces biodéchets?
Les biodéchets, on doit aujourd'hui, en compostage collectif, on doit collecter, traiter sur place 90 tonnes. Voilà, entre 90 et 100 tonnes, maintenant peut-être ça va augmenter un petit peu. Et sachant qu'après on a toute la partie compostage individuel, on a quand même beaucoup de maisons avec des jardins et il y a beaucoup de gens qui compostent à la maison. Et ce compostage-là, pour le coup, il peut pas être visible. On voit qu'il y a une baisse, il y a eu un report sur le tri sélectif, donc ça on peut le mesurer. Et ce qui est la différence entre la diminution des ordures ménagères et le report sur le tri sélectif, c'est la partie biodéchets qu'on composte à la maison.
Mmh. Et peut-être pour compléter sur le compostage en jardin individuel, j'ai mené une enquête lors de mes campagnes de porte à porte et j'ai environ 50%, enfin la moitié des habitants qui m'indiquent avoir un composteur chez eux dans leur jardin. Et c'est vrai que si on parle de tonnage et de collecte, voilà, le biodéchet, enfin les déchets alimentaires, c'est beaucoup d'eau, donc ça pèse assez lourd. Et en plus de ça, bah, ça peut servir pour l'habitant derrière, s'il a un petit bout de potager ou à donner à son voisin. Voilà, on voit directement l'intérêt que ça peut avoir, quoi.
C'est vrai qu'il faut penser, comme tu dis, qu'il faut bien considérer le biodéchet. Enfin, on parle du déchet, mais en fait, c'est le biodéchet, le compost, ce n'est pas un déchet, c'est une matière première. Parce qu'on veut vraiment la réutiliser, soit collectivement, soit individuellement, si on composte individuellement. Et j'en profite pour rappeler ici, à l'antenne, que composter chez soi, quand on a la possibilité, c'est bien plus performant pour le collectif, puisque... à les mettre en site de compostage partagé, c'est nos agents qui doivent retourner le compost, parfois qui doivent l'évacuer, il y a du temps de travail et du coup c'est un produit qui coûte et qui n'est pas aidé, on n'a pas d'éco-participation sur la carotte. Donc si on composte à la maison, ça coûte zéro pour la collectivité. Donc c'est une maîtrise aussi de notre redevance. Voilà, donc, j'en profite pour passer ce message.
Mmh. Et comme on est sur la facture... Donc... peut-être pour un particulier, une famille qui habiterait à Dieulfi, comment est-ce que cette facture, elle se lie entre le coût de l'enlèvement des ordures, de la déchetterie est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ces chiffres?
En fait, nos usagers, même si on a 4 forfaits, qu'on a des forfaits au choix qui sont un petit peu différenciés, on a des forfaits professionnels avec 10 ou 12 catégories, mais c'est des forfaits qu'il faut considérer comme un travail collectif, c'est-à-dire quelqu'un qui habite dans la rue du Bourg à Dieulfi, dans un petit appartement, il va devoir aller mettre au composteur partagé. Donc ceux qui ont un jardin vont payer pour cette personne-là. En revanche, c'est un petit appartement par rapport à une maison individuelle qui a un grand jardin avec des déchets verts qui vont utiliser le site de la déchetterie. Donc l'habitant de la rue du Bourg finance finalement les déchets verts de la déchetterie. Et il faut vraiment penser ça comme une mutualisation. Et les forfaits qu'on a mis en place, on le rappelle souvent aux usagers qui viennent dans le service, qui nous questionnent, que c'est pas un droit à consommer, c'est bien un objectif à atteindre. Et l'objectif, c'est d'être en dessous. Et nous, on a mis 23 dépôts, 42 dépôts, etc. Pour que ce soit atteignable par le plus grand monde, il y en a qui sont bien en dessous, qui sont entre 3 et 8 ouvertures. Et puis il y en a qui arrivent avec le temps à 22, 23. Il faut laisser le temps. Voilà, que tout le monde, en fait, il faut considérer ça comme un objectif commun.
Mmh. C'est intéressant cette lecture de mutualisation de la gestion des ordures. Enfin, on ne l'entend pas souvent de cette manière où les choses s'équilibrent entre les différents habitants et habitantes du territoire.
Oui, oui. Il faut aussi considérer que si on devait gérer tout seul nos déchets, faire enlever pour, on va prendre le forfait numéro 1, 169 euros par an, pour 169 euros pendant un an, si on devait payer quelqu'un pour collecter et traiter ces déchets-là, on voit que on est bien en dessous, donc cette mutualisation-là, elle est importante. Alors ça fait, au bout du compte, pour la communauté de communes, on gère 1,6 million de budget, donc on a 1,6 million euros de dépenses, et il faut forcément qu'à la fin de l'année, on ait 1,6 million de recettes, donc voilà.
Pour les personnes qui nous écoutent, toujours sur les factures, comment expliquer que le nombre de déchets par an et par habitant baisse, enfin a énormément baissé et bas sur le territoire, comme vous l'expliquez, et que pour le coup, pour autant, les factures ne baissent pas. Comment comprendre en fait ce rapport?
Eh ben oui, c'est vrai qu'à première vue, on se dit mais c'est pas normal. Ou est-ce que c'est le vice-président qui a une cagnotte cachée en Suisse? Mais non, il se trouve que pour l'actualité toute proche, on a eu en 2 ans sur les nouveaux marchés de collecte, les prestataires privés, dont la concurrence était pas très vigoureuse, puisqu'on a eu 2 offres et parfois une seule offre. Donc là, on n'est pas du tout dans la concurrence. Et en 2 ans, on a eu une augmentation de 35%, quelque chose comme ça. Et, et cette année, là, les derniers marchés, on a eu plus 65 000 euros. Donc plus 65 000 euros, c'est environ 8-9 euros de redevance juste pour faire la même chose, pour collecter les poubelles et puis pour collecter le tri sélectif. Donc il y a des choses comme ça. Quand la Chine, tout d'un coup, arrête, il y a quelques années, de récupérer les emballages des Européens, il y a un afflux d'emballages en Europe, il y a le cours du marché de l'emballage qui chute, et nous, on tablait sur des rachats de matières, sur des ventes de matières, du coup, qu'on n'a plus parce que le cours s'effondre. Et ça se fait dans l'année, et ça va vite, parce que pour nous, c'est tout de suite 30-40 000 euros. Et ben voilà, ça, après, il faut forcément le redistribuer sur redevance, parce qu'à la fin de l'année, il faut que tout soit équilibré. Donc, c'est là que l'objectif premier, c'est de moins on produit de déchets, plus on composte chez soi, moins on achète d'emballage, moins on a à les trier, et plus on les trie, le tri coûte moins cher que l'enfouissement. Donc, on essaie de sensibiliser les usagers là-dessus. La redevance incitative permet cet outil-là parce qu'elle touche au porte-monnaie. Mais on peut aller encore plus loin si tout le monde se sensibilise bien, qu'on peut vraiment trier au maximum. On peut encore maîtriser les factures et il y aura toujours d'autres augmentations, des choses qu'on ne maîtrise pas. Les factures ne baisseront jamais. Il va falloir qu'on... Ben on en parlera dans les perspectives, peut-être sûrement tout à l'heure. Je ne vais pas le développer ici, mais voilà.
On parlera de ça et puis peut-être aussi de ce que deviennent les déchets, où partent-ils ces déchets recyclés ou non. Je vous propose de parler de ça juste après une petite pause musicale. On écoute les Kinks sur Radio Lab Picture Book. À tout de suite. Nous sommes toujours avec Philippe Bérard, vice-président en charge de la gestion des déchets à la communauté de communes de Dieulfit-Bourdeau, et Aymeric Bernard, ambassadeur du tri au sein de cette même intercommunalité. On peut s'intéresser peut-être à présent au devenir et à la valorisation des déchets, qu'ils soient recyclés ou non. Que devient le contenu de nos poubelles, Aymeric Bernard ?
En fonction des différents conteneurs qu'on a, chaque flux va à un différent endroit. On peut d'abord parler des ordures ménagères, ce sur quoi on essaye tous d'agir. Actuellement, ça va à Roussas, au sud de Montélimar, où c'est enfoui, où c'est stocké.
Comprendre, excusez-moi, c'est vraiment les déchets sont enfouis. Ils sont pas à une époque ils étaient incinérés, brûlés.
Alors il y a deux manières d'éliminer les déchets. On parle d'élimination des déchets dans le jargon. C'est un peu curieux. Soit on les élimine énergétiquement, c'est-à-dire qu'on les brûle, voilà. Et soit on les élimine en les enfouissant. Et en fait chaque territoire a des historiques. Il y a des territoires avec des incinérateurs, il y a des territoires avec des centres d'enfouissement. Et nous, on est en centre d'enfouissement, donc on met dans un grand trou. Et puis quand le trou est plein, on fait un autre trou, puis on donne des autorisations. Puis il y a de moins en moins d'autorisations, justement, pour faire des trous, puisque les problématiques, elles sont multiples.
Tiens, ça fait réfléchir quand on jette quelque chose dans sa poubelle grise,
voilà.
Ou les poubelles dans les rues.
Multiplié par, nous, sur le syndicat des ports de Provence, c'est 250 000 habitants. Donc voilà, on multiplie, nous, on n'est que 10 000 habitants sur Dulphy-Bordeaux.
Ça en fait des kilos par habitant.
Voilà.
C'est vrai que de se poser cette question sur le devenir des déchets, ça permet de se représenter concrètement quand on jette un déchet dans telle ou telle poubelle, où est-ce qu'est transporté, ce que devient ce déchet. On peut parler des emballages et du papier, donc les conteneurs jaunes, les bacs jaunes. Le contenu de ces poubelles va au centre de tri qui s'appelle Métropolis, qui se trouve à Portes-les-Valences et qui est regroupé avec Valence, Montélimar, plus de 500 000 habitants. Il y a des chaînes de tri, donc c'est 5 types de machines différentes qui font le gros du tri, et puis en fin de chaîne, une vingtaine d'agents qui affinent un peu le tri. Et suite à ça, on a une dizaine de flux de déchets triés, surtriés, qui peut être ensuite envoyé chez différents recycleurs. Et les recycleurs pour les emballages et le papier, on en a plusieurs. On a le papier qui peut aller dans les Vosges, on a le carton qui peut aller dans la Drôme, Saint-Vallier-sur-Rhône, le plastique en fonction, ça peut aller, ça reste en France, tout ce qui est bouteille d'eau par exemple, le plastique de film qui est plus compliqué à recycler, ça va en France et un peu en Espagne ou en Allemagne. Il y a une partie encore qui est incinérée, qui est compliquée à recycler. L'aluminium, l'acier, pour le coup, c'est très bien recyclé et ça peut rester en France.
Et contrairement aux idées reçues aussi, concernant en tout cas le tri sélectif, ce qu'on met dans la poubelle jaune, ce qui part au centre de tri Métropolis, tous les flux, tout ce qui sort de Métropolis est recyclé en France et il y a une matière qui est en Allemagne et 3 matières dans le nord de l'Espagne. Mmh. Voilà, donc ça part pas à l'autre bout du monde. Voilà.
Oui, il y a un gros travail de fait. Il n'y a plus rien qui sort d'Europe. Tout est géré sur un territoire proche.
Mmh. Oui, c'est vrai que des idées reçues, il y en a pas mal. Il y a une infox qu'on entend de temps en temps. C'est comme quoi les déchets, finalement, ne seraient pas vraiment triés ou seraient tout mélangés. Enfin, que le recyclage ne serait pas effectif, c'est un mythe aujourd'hui.
Ouais, oui, alors ce qui est important de savoir, c'est que l'ADEME a travaillé justement sur cette notion de simplification. L'ADEME et Citeo, anciennement Eco-Emballage, l'éco-organisme qui gère en France les emballages, a travaillé sur la notion de simplification du geste de tri et pour dire à l'usager, tous les emballages se trient. Maintenant que les centres de tri ont des lecteurs optiques, ont des machines performantes, avant tout se triait à la main et l'œil humain n'avait pas le temps de trier, vous ne pouvez pas tout trier, donc il fallait séparer beaucoup de matières, etc. Maintenant, on peut améliorer vraiment ce rendement. Et du coup, ce qu'on dit à l'usager, c'est que tout se trie. Alors, tout se trie, ça ne veut pas dire tout se recycle, parce qu'il y a encore quelques matières, il y a des matières qu'on n'a pas les usines pour aujourd'hui en France et en Europe. Il y a quelques matières du tri sélectif qui vont être enfouies, mais globalement ça maximise la partie triée. Voilà, parce que ça devient beaucoup plus simple pour l'usager, donc l'usager trie plus et derrière du coup les machines peuvent valoriser plus.
Peut-être Aymeric, vous souhaitiez ajouter quelque chose?
Oui, pour compléter ça, donc l'acier et l'aluminium, c'est quasiment 100% de recyclage. Le papier, c'est autour de 70%. Et sur le plastique, voilà, c'est ce dont parlait Philippe. C'est là où il y a encore un peu de travail à faire, sauf sur les bouteilles d'eau qui sont pour le coup bien régénérées, enfin bien recyclées. Et puis peut-être pour compléter aussi sur le verre, il va directement chez le recycleur. L'usine se trouve en Ardèche. Et là-dessus, le verre, c'est... Quand c'est dans la bonne poubelle, c'est recyclé.
Presque en local.
Voilà. Et puis la matière, il n'y a pas de perte de matière, ça se recycle encore et encore quoi, sur le verre.
Donc il ne faut pas mettre le verre dans la poubelle jaune, parce qu'il coûte très cher, parce qu'il est lourd. Il est facile à recycler, c'est directement à la Ville-Dieu et vers Aubenas. Et puis, il ne faut pas le mettre non plus à la poubelle. Ça ne sert à rien de le mettre au trou parce que c'est du recyclage qui est facile.
Peut-être un mot pour terminer, sur, enfin quelques mots même sur les projets autour de la gestion, la collecte et la gestion des déchets sur le territoire. Il y avait un projet autour de la déchetterie qui était, je crois, autour du poids justement, de peser les déchets qui a été abandonné, c'est bien ça?
Alors oui, on a essayé pendant 4 ans et les professionnels étaient impatients, mais en même temps très patients, de pouvoir mesurer aussi les encombrants, on va dire le non-recyclable de la déchetterie, qui part au trou aussi, qui part à Roussas. Donc l'objectif, c'était de mettre une incitation là-dessus aussi. Simplement, c'est qu'on a essayé de le mesurer au volume, et c'était impossible pour aboutir à une facturation. Et on a essayé de le faire au poids, on a essayé de trouver des machines, mais vu le flux, ces machines n'étaient pas adaptées à tourner 200 fois par jour. Bref, on va abandonner cette piste-là et revenir à une incitation. On travaille avec un bureau d'études sur le premier semestre et normalement pour valider au mois de juillet la mise en place d'une redevance incitative juste pour les professionnels sur les tambours, sur l'ordure ménagère. Et le reste, ça continuera comme avant parce qu'on n'a pas de solution qui soit valable, enfin qui soit fiable jusqu'à la facture. Voilà.
Il y a un projet de matériothèque à moyen terme.
Alors, il y a une association qui cherche à monter une matériothèque et qui cherche un terrain. Nous, on est intéressé collectivité plus globalement sur la filière, ce qu'on appelle dans le jargon PMCB, c'est la filière des déchets du bâtiment, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Maintenant, donc, c'est une nouvelle filière, des nouveaux éco-organismes qui vont pouvoir valoriser ça, on va dire, gratuitement sur la collecte. Et on aimerait pouvoir trouver un foncier pour pouvoir créer un point de collecte pour que les professionnels et particuliers qui font de la construction puissent aller sur ce point de collecte, qui soit collecté à moindre frais. Plutôt que d'aller sur la déchetterie où on gère avec des coûts non négligeables. Alors on a d'autres projets aussi qui est en cours. On aurait dû le faire, on avait fait l'étude en 2023, on aurait dû le lancer en 2024, mais pareil, faute de foncier, on ne peut pas le faire. C'est la collecte des biodéchets sur les 5 centres-bourgs, Bourdeau, Dieulfi, le Poët-Laval, la Bégue, des Ponts de Barret, collecte des biodéchets. Puisqu'en fait, on a besoin d'un foncier pour pouvoir traiter ces biodéchets sur place, pour ne pas les emmener aujourd'hui, ils partiraient à Étoile-sur-Rhône, et plus tard, ils pourraient partir à Mondragon en méthanisation. Mais on voit bien que transporter une tonne dans un camion sur tant de kilomètres, c'est aberrant écologiquement, et en plus, ça aura un coût faramineux. Donc on cherche un foncier là-dessus, sachant que ces biodéchets, on est désolé de le dire, on le dit un petit peu dans le courrier, mais ces biodéchets, comme il n'y a pas d'éco-participation sur la carotte, comme je vous le disais, eh bien on va devoir assumer ça. Et c'est très bien écologiquement, parce qu'en fleur du biodéchet à Roussas, ça n'a aucun sens. Mais il va falloir qu'on augmente la redevance pour assumer cette collecte sur les 5 centres-bourgs. Et ça fait partie de la mutualisation, c'est-à-dire que moi j'habite à Montjou, je n'aurai pas cette collecte de biodéchets, mais je vais quand même payer pour les habitants de Bourdeau, de la Bégude, pour les centres-bourgs qui ont besoin de ça. Et eux, ils payent pour mes déchets verts que je vais emmener à la déchetterie.
On peut imaginer un centre de traitement dans les années à venir si un terrain se libère et qu'il y a la possibilité.
Si un terrain se libère, on ira en effet sur cette collecte-là, on ira sur un traitement en local où on mélangera avec les biodéchets, avec les déchets verts de la déchetterie, et on mutualisera cet outil et voilà, on optimisera le service, en tout cas on optimisera la qualité du tri sur notre territoire encore.
Vous reviendrez nous en parler à ce micro. Merci beaucoup Philippe Bérard et Amérique Bernard d'être venus parler de la gestion des déchets et de tri sélectif au micro de Radiola.
Merci à vous.
Merci à vous.
Peut-être pour les personnes qui nous écoutent, qui ont des interrogations, qui souhaiteraient en savoir plus, on peut renvoyer vers le site de la CCDB.
Oui.
Donc ccdb26.fr.
Tout à fait.
Pour vous contacter directement ou...
Oui, vous pouvez nous... Alors, sur le site internet, vous avez nos différentes adresses. Il y a une adresse qui c'est déchets au pluriel, sans accent, déchets au pluriel, @ccdb26.fr. On a un standard au téléphone sur des horaires de permanence. Et puis, si les personnes veulent se déplacer, on les accueille sur nos horaires aussi, le mardi, mercredi et vendredi matin. Voilà, donc on est à l'écoute et pour recueillir des remarques et puis pour répondre à toutes sortes de questions sur le tri, sur les déchets.
Merci encore.
Merci.
Radio-là, c'est sur radiola.media.